RFI, grand reportage, Laurence Adou.
RFI vous propose aujourd'hui, dans grand reportage, un moment de grâce et de nostalgie. Un retour en arrière dans une Centrafrique qu'on aurait presque oubliée. Dans les années 80, les orchestres qui se produisaient dans la capitale centrafricaine jouaient devant un public de chrétiens et de musulmans, tous deux réunis. Le quartier du kilomètre 5 était le cœur de la vie culturelle, un âge d'or musical qu'il est bon de se rappeler après ces deux années de crise. Bangui, star des années 80, c'est un joli reportage de Laurent Corot. Laurent, que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
C'est l'histoire d'une Centrafrique qui n'est pas si lointaine, celle des années 80, l'âge d'or des orchestres centrafricains. Une époque marquée par quelques grands noms, comme Gaucher National, l'un des musiciens du formidable Muziki. Pourquoi est-ce qu'on vous appelle Gaucher ?
Parce que je suis gaucher, je joue la guitare en envers.
En 1979, l'empereur Jean Bédel Bokassa est destitué à la suite d'une intervention militaire française. La création artistique se libère, pour quelque temps au moins. Le témoignage de Vincent Mambachaka, créateur de l'espace culturel Lingatere à Bangui.
Ça a été le moment du printemps culturel, il y aura des séries de conférences débats entre les universitaires qui sont rentrés, les étudiants, les jeunes, les artistes, les groupes de musique pouvaient se produire librement dans les bars dancing jusqu'à des heures tardives, je dirais jusqu'au petit matin. Tout d'un coup, il y aura vraiment une grande liberté.
Dans cette effervescence créatrice des années 80, plusieurs groupes se disputent l'affection du public. Une émulation dont se souvient encore Georges Ferreira, le chef d'orchestre du Makembe.
Il y avait une vraie compétition entre nous. À chaque fois qu'on allait chez l'autre adversaire, on regardait ce qu'il a créé, ce qu'il a sorti comme nouveauté. On dit, tiens, il va falloir travailler de l'autre côté là-bas. Parce que le revenu des groupes était en fonction du public. Et chaque fois qu'un groupe sortait quelque chose de bien, on assistait à un mouvement de clients qui allaient chez eux et qui délaissaient là où vous étiez. Donc à chaque fois, il fallait créer quelque chose, il fallait sortir quelque chose de nouveau pour faire revenir son public au dancing. Kondé Na, par exemple, Kondé Na de Makembe, ben, c'est une chanson qu'on a créée pour essayer de pallier à cela. Là-dedans, j'avais utilisé le clavier pour la première fois en solo dans une musique centrafricaine. Et la particularité que nous avons mis, c'est que nous avons mis la manière de parler un peu de ceux du Nord. Mais on savait que ce mot revenait souvent dans le langage, leur langage et tout, mais on a repris leur propre slogan pour en faire une chanson. Et ça a marché dans le quartier là-bas parce qu'ils se sont reconnus là-dedans.
Makembe servira de vivier à plusieurs autres orchestres. Ce sont par exemple des dissidents du Makembe qui vont donner naissance, fin 82, au Canon Star, une formation qui obtient dès son premier concert un succès spectaculaire. Le batteur du groupe, Abingo Mateke, se souvient.
Nous sommes partis de Makembe avec mes amis, on était 9. Et c'est à partir de là qu'on a créé. C'était un 22 novembre 1982 qu'on a mis Canon Star en place. Derrière la Croix-Rouge, il y avait un bar ici. C'était à le studio C et c'est Thierry Darlon qui gérait ce bar. Et c'est là aussi qu'il a enregistré aussi les musiciens parce qu'il avait son petit studio ici. Et puis en même temps, c'était un bar dancing. Alors donc lui, il nous a laissé ce bar-là pour qu'on puisse répéter là. Et voilà qu'on a commencé à répéter ici. Et notre sortie, c'était à l'ABC. Quand je partais de chez moi pour aller au concert, j'arrivais vers 17h. Le concert était prévu pour 20h. 17h, je voyais du monde devant le bar et je pensais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je me posais la question, qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est là qu'on me dit que non, ben c'est le nouveau groupe qui est sorti. C'est eux qui vont jouer ici. Et ben, il n'y avait plus de place. Et nous, les musiciens, nous sommes restés dehors. Ça veut dire que le public était dans le bar et c'était saturé et on ne pouvait même pas rentrer voir les joueurs.
Le quartier du kilomètre 5 est l'épicentre de cette vie culturelle. Chaleur. Dans les années 80, les bars dancing sont regroupés dans un petit périmètre et les clients peuvent aller de l'un à l'autre. Gaucher, du formidable Mouziki, se souvient de ces folles nuits d'ambiance.
Un peu partout, il y a l'ambiance. Tu peux quitter Pêche-Coco, tu finis à ABC chez Mouziki, tu as 5 sur 5 chez le Makembe. Beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup de mouvements. Pour sortir, pour aller frimer, trouver des copines, les filles sortaient aussi pour avoir chercher des copains et tout. Les gens venaient de tous les quartiers. Il y a tout, hein. Le médecin, il y a tout.
En hommage au quartier, Canon Star va même écrire « Kilomètre 5 », une mise en garde aux messieurs vis-à-vis des dames trop entreprenantes. Des plus célèbres bars dancing du kilomètre 5 à l'époque s'appelle le Punch Coco. Roger Poggimagino était son patron.
Quand vous rentrez dedans, c'est comme si vous étiez dans un jardin, dans une ancienne fermée. C'est une grande salle. On avait créé deux pistes de danse. Il y avait deux bars aussi. C'était le lieu de fête, quoi, de réjouissance. Le pouls du pays battait au kilomètre 5. C'était le lieu où il fallait être. Donc tout Bangui venait là. 25 morceaux de viande.
Tout Bangui vient s'amuser au kilomètre 5. Et sur les pistes de danse, poursuit Roger Poggimagino, pas de distinction religieuse.
On ne faisait pas de distinction entre nous. Un jeune musulman qui rentre là, on ne dit pas que ça c'est un musulman, non. Cette affaire-là, même aujourd'hui, je n'arrive pas à croire que c'est possible. Ça n'existe pas. Pendant les fêtes de Ramadan, par exemple, à la fin de la fête de Ramadan, il y avait un orchestre musulman qui venait jouer là. Mais c'était plein. Chrétiens et musulmans qui venaient faire la fête avec l'orchestre qui venait du Tchad que je produisais. Et là, on ne pouvait pas faire la distinction entre chrétiens et musulmans. C'était une fête pour tout le monde.
Attention, yeah, 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 yeah. Attention, chérie, oh, oh. Attention, yeah, 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 yeah. Attention, à kilomètre 5.
À Bangui, dans les années 80, certains bars dancing offrent une prestation particulière le dimanche. Les bals de jour proposés aux femmes installées et aux mères de famille. Le Canon Star en a fait sa spécialité. Delmas, l'un des musiciens du groupe.
C'était à partir de 14h. Donc à 14h, ces bonnes dames, elles arrivaient soit en taxi, soit en mobylette, parce qu'on utilisait beaucoup les mobylettes à l'époque. On s'est retrouvé à Tibetimbi, toujours au fameux kilomètre 5. Voilà, ils venaient entre copines de collègues, ou par corporation, ou les femmes douanières, les infirmières, les institutrices et tout ça. Elles mangent les méchouis, elles boivent leur bière, puis elles dansaient, elles se relâchaient. C'était leur moment de se détendre. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit que le kilomètre 5, c'est le quartier de vie.
Dans les groupes de l'époque, il y a peu de chanteurs féminins. Les messieurs endossent donc le rôle des dames et chantent leurs problèmes ou leurs revendications. Succès garanti. Surtout, raconte Delmas, quand les bals de jour sont l'occasion de régler des rivalités sentimentales.
Des fois, elle est là et puis il y a l'autre, son mari est sorti avec une autre femme qui est là aussi. Elles aiment bien se défier comme ça, les femmes chez nous. Ouais, quand elles veulent défier l'autre, tout se passe au niveau des fesses. Elles balancent leurs fesses en marchant, déjà, ou elles dansent en marchant. Des fois, elles viennent taquiner l'autre avec ses fesses. Et puis, la femme dit à l'autre, à qui tu remis tes fesses? C'est une chanson comme ça qu'elles aiment beaucoup. Donc, l'orchestre fait ça tout le temps.
Mais fréquenter les bars dancing n'est pas le seul moyen d'écouter de la musique à l'époque. La radio nationale diffuse les œuvres et les centrafricains des années 80 sont friands de cassettes audio. Les années 80, à Bangui, marquent l'apogée de la bande magnétique. Vincent Mambachaka.
C'est le moment où le studio ABC va naître, le studio Vitamine, le studio Bonga Bonga et on va arriver à une série d'enregistrements
et la duplication des cassettes. C'est aussi la période où beaucoup de gens pourront s'offrir des radiocassettes et chacun pouvait écouter des cassettes chez lui, à la maison. Les cérémonies de baptême, de mariage, c'était l'occasion où chacun avait la fierté de jouer ces cassettes-là. Les cassettes étant produites en grande partie soit au Cameroun, hein, ou bien à partir de la France et ramenées à Bangui. Les cassettes étaient vendues dans les petits kiosques. Au départ, je crois que Thierry Darlan va essayer d'organiser le monde musical. Et il va créer à ce moment-là l'Union des musiciens centrafricains. Il va mettre en place des kiosques de vente de ces cassettes. Mais en même temps, vu que les gens aimaient tellement acheter les cassettes et la musique, tous les commerçants, qu'ils soient de Bangui ou bien à l'intérieur, vont être les relais de distribution parce que ça devenait un produit qui était acheté.
De quoi parlent-elles ces chansons ? Beaucoup décrivent la vie de tous les jours et dénoncent les violations de certaines règles de la société. Jean-Dominique Penel est spécialiste du chant d'orchestre centrafricain.
Il y a des chansons d'amour, bien entendu, il y a des chansons de rivalité, il y a des chansons de jalousie. Par exemple, on va critiquer celui-là qui trompe les femmes. Celui-là, il est parti en France, soi-disant faire des études, il revient, mais il trompe les gens, il a pas de diplôme, il a rien. Celui-là, c'est un vieux qui chante et qui dit « Ah !» Voilà, hein, moi je suis là, je vous ai aidé, et puis personne ne s'occupe de moi. Voyez ? Ou bien on va dire, ah, toi, tu as utilisé la sorcellerie pour faire ceci contre moi, ou pour faire ceci contre un autre. Tenez, il y a une très très jolie chanson que moi j'aime beaucoup, ça s'appelle Kondo. Kondo, c'est le poulet. Hein, et le poulet, il chante, et il dit, ah, vous savez, qui c'est qui vous réveille le matin ? C'est moi. Qui c'est à qui on mange les œufs ? C'est moi. Quand il y a quelqu'un qui arrive chez vous, qui c'est que vous mangez ? C'est moi. C'est une façon de parler des gens du peuple. Hein. C'est eux qui souffrent, c'est eux qui sont victimes constamment, c'est eux qui font vivre les autres et c'est eux qui sont victimes, vous voyez ? Mais voilà, vous avez une très jolie chanson. C'est Makembe, je crois, qui a fait ça, hein, où le peuple s'exprime à travers une chanson.
Les années 80 voient aussi l'ascension du groupe Zokela, parti de Mbaïki dans le sud-ouest du pays. Il a été l'un des acteurs essentiels de la naissance d'un style typiquement centrafricain, le Montengene, qui mélange musique traditionnelle et moderne. Kaida Monganga est l'un des pionniers de Zokela. Il se souvient des débuts de l'orchestre.
Au fait, Zokela, c'est une fusion de deux petits groupes d'orchestre. Nous étions des jeunes étudiants au niveau de Mbaïki, de la Lobaï. L'autre groupe s'appelait Super Bombolé. Et puis l'autre groupe s'appelait Atanda Sukali. Au total, nous étions au moins une vingtaine que nous sommes regroupés pour former Zokela. Notre première sortie, c'était le 1er mai 1981 en Mbaïki, pendant la fête du travail. Zokela n'a pas seulement commencé directement avec le rythme traditionnel. On mélangeait un peu ce qui était du Zaïre. Et puis, nous avons décidé un jour de chercher à piocher une chanson de nos terroirs pour valoriser. C'est Walium Molamba qui, c'est une chanson traditionnelle chantée par nos mamans au village là-bas. Et quand nous avons fait cette expérience, on a vu que vraiment ça répondait au goût de la population et nous sommes décidés de rester sur cette base.
Remarqué par les artistes d'un autre groupe, le formidable Muziki, lors d'une tournée, les Zokela viennent s'installer à Bangui, où ils finissent par rendre ce style du Montengene populaire, notamment en l'ouvrant aux influences d'autres régions du pays. Ervano, dit le collégien, fait partie de ceux qui ont rejoint l'orchestre dans la capitale.
C'est déjà un mélange de ce qui est traditionnel, donc sur la base de folklore, mais transposé sur les instruments modernes. Comme les guitares que nous connaissons maintenant, et la batterie électrique, etc. L'accueil était dans un premier temps localisé parce que les ressortissants de cette région de la Lobaï étaient vraiment fiers de voir la danse de leur région venir à Bangui. Parce que pour danser ça, il fallait aux ressortissants de la Lobaï qui étaient à Bangui pour repartir au village avant de danser. Et maintenant, Zokela a amené la danse à Bangui. Ça faisait dans un premier temps la fierté des ressortissants de la Lobaï. Il faut dire que au début, les chansons étaient beaucoup plus, pour la plupart du temps, chantées dans les langues locales de la Lobaï. Et par la suite, et bien entendu, lorsque il y a eu cette transition entre les aînés qui ont amené les ukulélés de Bangui à Mbaïki avec nous autres qui avons intégré l'orchestre à Bangui, nous avons apporté une petite contribution déjà en commençant à chanter en langue nationale qui est le sango pour que le message puisse porter, et on a commencé à chanter dans les langues des autres régions, et là la queue est vraiment foudroyant. Ça a mené vraiment une révolution dans le parcours de Motenguene.
C'était il y a 30 ans. Trois décennies plus tard, certains artistes ont émigré en France, d'autres sont restés à Bangui. La mémoire des orchestres banguissois s'efface progressivement, les enregistrements vieillissent, alors que cette musique populaire est l'un des patrimoines culturels importants du pays. Bangui, star des années 80, un reportage de Laurent Corot mis en onde par Marc Minatel et réalisé avec la complicité de la radio Linga FM à Bangui. Merci à Tony Balu qui a passé des heures à régler des questions techniques pour les duplex. Merci également à Cyrus Nabana qui nous a ouvert sa collection de musique centrafricaine.
Laurent Corot, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de nous proposer une évocation des années 80, on va le dire comme ça, hein, surprenante, oui. Pour le moins en tout cas, quand on compare cette situation à la situation actuelle.
Mais je crois que c'est justement ce qui faisait l'intérêt de ce sujet, montrer qu'il n'y a pas si longtemps, il y a une trentaine d'années, le kilomètre 5, eh bien, ça n'était pas l'enclave assiégée qu'on a connue ces derniers mois, mais un quartier où l'on faisait la fête sans tenir compte des différences religieuses, où le soir, on pouvait passer d'un bar dancing à un autre. C'est une mémoire qui a été un peu perdue, bien qu'elle ne soit pas si lointaine. Et à un moment où il est beaucoup question de dialogue, de réconciliation en Centrafrique, eh bien, il m'a semblé important de rappeler ces épisodes heureux du vivre ensemble centrafricain, un vivre ensemble construit autour de cette culture populaire des chants d'orchestre.
Et qui parle à chacun, du coup. Alors, vous évoquez à la fin de votre reportage le fait que ces chants d'orchestre sont une partie importante du patrimoine culturel centrafricain, mais une partie, nous dites-vous, menacée.
Oui, alors menacée évidemment par l'usure du temps, les bandes magnétiques vieillissent mal, vous êtes un homme de radio, vous le saviez autant que moi, les collections également sont dispersées avec tous les événements qu'a connu le pays ces dernières décennies, mais ce qu'il est important de noter, c'est qu'il n'est pas trop tard pour réagir. Beaucoup de ces chants d'orchestre pourraient être protégés pour peu qu'on en fasse l'effort. Et ces chants sont importants d'abord parce que, comme on vient de le dire, ils créent du lien entre les Centrafricains, mais aussi parce que ils nous racontent l'histoire de la Centrafrique des dernières décennies en nous parlant de la vie quotidienne des Centrafricains.
Alors vous nous parlez dans votre reportage des années 80. À quand peut-on dater le début de ces chants d'orchestre centrafricains?
Alors, on pense que le premier orchestre, le Tropical Band, a vu le jour vers 1957. Donc, cette chanson d'orchestre accompagne, peut-on dire, l'histoire de la Centrafrique indépendante. Les auteurs, d'ailleurs, qui ont travaillé sur le sujet, avouent que le nombre d'orchestres est difficile à compter. Certains ont connu une très brève existence. Le nombre de chansons lui-même est difficile à établir. Certaines n'ont pas été retranscrites ou pas enregistrées. L'un de ces auteurs, Pierre Saulnier, estime en tout cas que l'âge d'or de ces orchestres est situé vers le milieu des années 80 et que par la suite, la crise économique a fait baisser la fréquentation des bars dancing.
Merci Laurent Corot. Votre reportage, je le rappelle, est à réécouter sur www.rfi.fr. Merci beaucoup et c'est bien de se quitter en musique. Alors, on écoute quoi, du coup?
Alors, c'est une chanson qui s'appelle Le Vieillard et qui a été chantée par le Canon Star. Elle date de 85. Et vraiment, ça a été un grand succès à l'époque. Et je pense que c'est un bel hommage aux anciens de la musique centrafricaine et à ce qu'ils ont construit.
C'est que du bonheur. Merci beaucoup. Chicoté.